Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
On débrief l'actu tech ce soir avec Salim Nassur qui est en train de s'hydrater. Il a bien raison, il faut s'hydrater. Didier Sens est avec nous aussi, Michel Lévy-Provençal et Frédéric Simotel. Et Sylvain Trinel nous a rejoint sur le plateau. Salut Sylvain.
Bonsoir.
Journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et aujourd'hui, on a appris donc le départ surprise de l'un des fondateurs de Blue Sky, le réseau social qui se voulait être une alternative à Twitter, on s'en souvient, hein, désormais X.
Exactement, et c'est un départ qui interroge Jack Dorsey. Il est plus connu pour avoir été l'un des fondateurs de Twitter. Il a annoncé tout simplement sur Twitter son départ du conseil d'administration de Blue Sky, ce fameux réseau social qui, à l'instar de Mastodon, permet d'ouvrir des serveurs avec des règles de publication et de modération spécifiques, tout en ayant la possibilité de suivre les publications de ses abonnements dans un fil commun. Alors, en début d'année, après des mois de bêta, on se souvient que Blue Sky était officiellement lancé, accueillant plusieurs millions d'utilisateurs. Ils sont plus de 5 millions aujourd'hui. Mais quelques mois plus tard, bon, le soufflet, il est un petit peu retombé. Bien qu'officiellement, le départ de Jack Dorsey n'a rien à voir avec une quelconque baisse de fréquentation.
Alors, la question à 1 euro,
oui,
cher Sylvain.
Probablement.
Qu'est-ce qu'il va faire, Jack Dorsey, après avoir quitté Blue Sky?
Eh bien, il était déjà peu actif hein, sur les réseaux sociaux. Il avait même fermé son compte Blue Sky l'an dernier. C'est dire,
c'est
Jack
pas bon.
Dorsey, il a quand même partager une publication laissant penser qu'il va se concentrer sur ses activités de philanthrope, notamment dans le domaine des logiciels open source. Du côté de Blue Sky, on essaye en tout cas de garder un peu la face en saluant son aide dans la création du réseau social, tout en expliquant être désormais à la recherche d'un nouveau membre pour son conseil d'administration. J'imagine que les messieurs autour de la table ont peut-être postulé, je ne sais pas, peut-être toi François.
Mais bien sûr, évidemment.
Allons-y, et ben c'est parti.
Allez, je vais remplir le formulaire. Merci beaucoup, c'était
Merci.
Sylvain Trinel de la rédaction de Tech & Co. Et si vous voulez en savoir plus sur ce départ, bien évidemment, on vous invite à parcourir le site de Tech & Co. Messieurs, donc, le départ de Jack Dorsey, c'est quand même un personnage haut en couleur, hein, Jack Dorsey. On a parlé de Twitter, c'est aussi le fondateur de Square, hein, le système de paiement qui est bien connu. Voilà, il est richissime, hein, je crois qu'il fait partie des 300 personnes les plus riches des États-Unis. Il a un mode de vie un peu particulier aussi, Jack Dorsey. C'est quelqu'un, voilà, il aime bien méditer, il mange qu'une seule fois par jour. Enfin voilà, il est dans un mode, voilà, mais alors, peut-être que tu, je sais pas, peut-être qu'il y a beaucoup de dirigeants de la tech américains qui sont un peu comme ça, dans la méditation, dans des, on va dire, des philosophies un peu particulières.
Dans la méditation, oui. Dans le fait de ne pas manger, ça dépend.
Bah lui, il mange une fois par jour. Hein. C'est ce qu'il dit.
Moi aussi, à peu près.
Dit, hein, voilà.
Mais bon, ça ne fait pas moi un dirigeant de la tech. Mais, enfin,
un peu quand même.
Oui, enfin, puis maintenant. Mais non, ce qui est intéressant, parce que j'aime beaucoup Jack Dorsey. On en parlait tout à l'heure. Pour moi, c'est une no-news quand même, parce que personne ne connaît Jack Dorsey, et encore moins Blue Sky. Je sais pas, vous avez utilisé?
Non. Alors moi je l'ai utilisé, pour tout te dire, tu as raison, mais je l'ai utilisé pour savoir où je mettais les pieds pour en parler.
Ah oui, à l'époque, ouais.
Ouais. on avait échangé 2-3 trucs avec Fred et puis bon, voilà quoi.
Donc pour moi, c'est une no-news.
Un peu par comme Mastodon d'ailleurs. Hein,
oui, oui. Bah, oui pareil, exactement. Forcément. Mais ce qui est intéressant, c'est le personnage.
Oui.
Le personnage, je trouve qu'il est assez emblématique de l'ancienne garde de la Silicon Valley où tu avais des gens qui étaient des rêveurs et qui pensaient à faire de la tech for good, en fait. Et lui, il est plutôt dans cette mouvance-là. Je rappelle quand même que quand il y a eu la pandémie de Covid, il a donné 4 milliards de dollars de sa poche pour aider.
Ouais, donc, oui, celui qui a fait venir Elon Musk à la tête de Twitter aussi, il faut le rappeler.
Oui, d'accord, mais justement, peut-être pour développer. Donc, et quelque part.
Tech for good.
Je sais pas, aujourd'hui, quand tu regardes quand même Elon Musk, tu peux dire ce que tu veux, il a quand même accéléré la transition électrique de l'automobile.
Non, mais ça n'a rien à voir avec Twitter. Tu d'accord?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as encore des dirigeants dans la tech, dans la Silicon Valley, qui ont cette vision de se dire, je peux utiliser la technologie pour faire quelque chose de bien. Je pense que là, aujourd'hui, il est un peu en recherche de, c'est quoi mon next move par rapport à ça. Il a essayé de lancer un nouveau réseau social, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, en vrai, on n'a pas besoin d'un nouveau réseau
social. C'était un protocole au départ, hein, c'était pas...
Oui, bien sûr.
La plateforme est venue après. Hein, au départ, c'était un protocole qui devait servir à Twitter, et puis un truc décentralisé, justement, dans cet esprit qu'il a de... de décentraliser les technos. Ensuite, il a fait sa plateforme. Bon, voilà, il la lance au moment où Twitter est racheté. Il la lance au moment où TikTok est en train de grimper en flèche. Bon, voilà, c'est un peu compliqué. Il a même pas de compte. Moi, j'ai appris, je savais pas qu'il avait pas de compte sur Blue Sky. Je pense que c'est un personnage un peu atypique, voilà, qui cherche autre chose.
Tu lances un réseau social et t'as pas de compte, tu sais, le gars. Ouais, c'est cool.
Mais je pense qu'il a un côté un peu atypique, voilà. C'est comme tu dis, là. Alors, je sais pas s'il est que vegan ou s'il est autre chose, mais voilà, il aspire autre chose dans sa vie, voilà. Tout simplement, parfois, certains veulent continuer à faire faire vivre la boîte parce que ça les passionne, parce que la tech, puis voilà, ils se cherchent sur d'autres voies.
Michel.
Blue Sky, c'est 0,5% de l'audience de Twitter.
Ouais.
Donc, c'est Epsilon.
Je crois qu'il y a 5 millions d'inscrits et 2 millions d'utilisateurs actifs.
Oui, c'est ça. 2 millions d'actifs,
c'est pas énorme.
Il n'y a pas de modèle économique.
Il n'y a pas de modèle économique. Non, la seule chance de Blue Sky, c'est que Twitter soit banni. Donc, on va voir comment ça se passe. Il y a peu de chances que Twitter soit banni.
Twitter est
sinon, non, mais parce que Blue Sky, c'est plus Twitter
sûr.
Que...
Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus de chances que TikTok soit banni que Twitter.
Oui, il y a plus de chances que TikTok soit banni que Twitter. Donc, on va voir. Mais en effet, c'est un non-événement par rapport
à Blue Sky. Le problème de Blue Sky, c'est qu'ils avaient une opportunité énorme au moment où il commençait à y avoir toutes les casseroles autour du rachat de Twitter et de l'arrivée de X... sous le règne d'Elon Musk, qui avait plein de choses à faire. Mais c'est pas dans leur ADN, c'est pas dans leur ligne politique. Les gens de Blue Sky, c'est des gens, c'est un peu des rêveurs, comme à l'image de Dorsey. Hein. C'est des gens qui veulent bien faire, donc c'est de l'open source, c'est de la décentralisation, c'est, voilà. Ils auraient pu, effectivement, en profiter pour devenir quelque chose d'un peu plus sérieux, ils l'ont pas fait. De toute façon, Dorsey, c'est quelqu'un qui est pas très constant, si on suit un peu cette trajectoire dans la Silicon Valley, c'est quelqu'un qui s'emballe très rapidement pour quelque chose, puis au bout d'un moment, bof.
Ouais, mais après, d'accord, après, mais il a quand même créé Twitter et fait Square quand même.
C'est ça.
Les gars.
Oui.
Je veux bien, mais c'est pas deux gros bides.
Et puis c'est bien qu'il y ait des gens comme ça, parce que sinon tu fais que des choses qui sont rationnelles. Donc il faut des gens comme ça qui sont complètement différents.
Pas bien, c'est bien ou pas bien. Je dis, c'est un peu le personnage. C'est quelqu'un.
Et puis la décentralisation et l'open source sont pas que des idées qui ne réussissent pas. Rappelle qu'aujourd'hui le web tourne massivement sur de l'open source, hein, et que la décentralisation, je suis désolé, mais les blockchains et donc les crypto-monnaies, c'est de la décentralisation.
Oui,
Bitcoin, l'Ethereum.
Je n'ai pas lié les deux. J'ai pas dit que ça marchait pas parce que c'était comme ça. Je dis que ses modèles à lui, c'est ça, c'est l'open source, la décentralisation.
Bon, ben voilà, on referme la page Dorsey. On n'a rien dit. Hein?
Ouais. Écoute, on verra où il rebondira, s'il rebondit quelque part ou s'il termine en ermite, parce que ce serait bien.
Ça me rappelle un peu. On a notre Jack Dorsey. Alors, s'il m'entend, il va me détester. Mais on a notre Jack Dorsey français, tu sais, Loïc Lemaire, en fait.
C'est vrai que Loïc,
au départ, enfin, tu vois, on a pas mal échangé. C'était vraiment le gars hyper dans la tech qui repassait d'un projet à l'autre.
Et d'un coup,
ça fait. Il est reparti.
Il a eu quelques aventures dramatiques dans sa vie.
Bien sûr. Évidemment, il y a des côtés perso un peu compliqués. Mais n'empêche que je retrouve un peu ce schéma avec Jack Dorsey où à un moment, tu dis OK, je vais prendre un peu de recul. Peut-être qu'il reviendra, peut-être qu'il ne reviendra pas. Tu vois. Bon, on verra.
Ouais, intéressant quand même. Il est 20h44. Tiens, prenons un peu de recul. Allons dans l'espace pour nous intéresser à ce décollage capital cette nuit, hein, pour la capsule Starliner. Et c'est Boeing qui est derrière ce truc-là. Ce vaisseau doit prendre son envol donc depuis Cap Canaveral à 14h34 heure française, donc cette nuit, avec deux astronautes à son bord. C'est une mission importante, hein, pour le groupe aéronautique après des années de déboires et de ratés. Et pas sûr pour autant que ça suffise pour concurrencer SpaceX. Les explications de Raphaël Couder et on revient juste après pour commenter tout ça.
Starliner doit permettre à Boeing de rejoindre le club très fermé des entreprises capables de transporter des humains dans l'espace. À son bord, deux astronautes aguerris, Butch Wilmore et Sonny Williams, qui s'envoleront cette nuit en direction de la Station Spatiale Internationale. La réussite de cette mission viendrait clore sur une note positive la saga d'échecs et de reports qui a marqué le développement du vaisseau. Boeing espérait en effet réaliser ce vol habité dès 2022, mais des problèmes sur les plans logiciels et mécaniques ont multiplié les retards. Starliner doit permettre à la NASA d'alterner avec SpaceX pour acheminer ses astronautes vers l'ISS. Pour autant, l'avenir commercial du vaisseau de Boeing apparaît plus qu'incertain. De son côté, le Crew Dragon de SpaceX enchaîne les succès. Le groupe d'Elon Musk a déjà vendu 8 vols supplémentaires à la NASA d'ici 2030. SpaceX a par ailleurs pris une avance considérable dans les vols touristiques, un domaine dans lequel Boeing va également devoir faire face à la montée en puissance de tout un écosystème de start-up qui rivalise de projets innovants.
Donc voilà cette belle capsule qui, rappelons-le, s'appelle Starliner. L'objectif, vous l'avez compris, c'est qu'elle doit propulser deux astronautes vers l'ISS. Ça paraît simple comme ça, mais évidemment, vous l'imaginez, c'est très compliqué. Et c'est un moment très important pour Boeing parce que voilà, on sait que en ce moment, les activités de Boeing sont plutôt malmenées, Didier. Le Boeing 737 Max, espérons que le hublot de du Starliner ne s'ouvre pas.
J'hésitais à la faire, celle-là.
Non, mais voilà.
Fallait la faire, c'est ça.
Non, mais souhaitons-leur évidemment que ça se passe bien, mais c'est vrai que ce lancement arrive dans un contexte un peu compliqué quand même pour
Boeing. Oui, c'est une entreprise qui a connu beaucoup de difficultés, ouais. Qui a voulu se lancer.
Ça devient presque un cas d'école, finalement, Boeing. Je pense que dans quelques années, on enseignera la déliquescence en fait, de Boeing. Qualité, c'est fou quand même.
Ouais. Moi, j'appelle ça avec mes enfants le syndrome Jean-Michel à peu près, mais j'en reparlerai après si tu veux.
Mais oui, donc c'est un moyen. Enfin, l'espace était pour eux un moyen de redorer un peu leur blason. Ça a échoué. Ils ont essayé de faire leurs premières capsules, si mes souvenirs sont bons, dans les années 2019. Ça n'a jamais marché. En 2022, ils ont envoyé.
Le premier programme, c'est 2011 même. Tu vois, avant que la capsule arrive, 7 ou 8 ans plus tard.
Et ils ont fait un vol qui, d'ailleurs, était inhabité. Et puis, j'allais dire Starlink. SpaceX est arrivé là, et eux, ils ont raflé tous les marchés, et leur truc marche. Ce qui est quand même incroyable qu'une entreprise d'aéronautique comme Boeing se fasse damer le pion par une petite start-up qui vient de nulle part.
C'est terrifiant.
Et maintenant, ils arrivent donc avec 4 ans de retard sur un marché qui, effectivement, comme on le dit dans le commentaire, est sous la coupe de SpaceX et de plusieurs start-up qui arrivent sur le secteur. Et puis surtout, ils arrivent au moment où on va démanteler l'ISS. Donc la station internationale, puisqu'elle est censée, cette capsule, faire l'aller-retour avec la station internationale, mais la station internationale va être démantelée dans 4-5 ans.
Oui, 2030.
Donc elle ne servira plus à rien, à moins que d'autres projets...
Après, il y aura un remplaçant de l'ISS.
Ça, ouais.
On verra. Il y aura un remplaçant de l'ISS et peut-être qu'il y aura sans doute encore des...
évidemment, est-ce que les gens feront encore confiance à Boeing? C'est une autre histoire.
Ouais, c'est clair. Qui va enchaîner sur Boeing?
Moi, ce qui est intéressant, c'est l'effet l'ombre de Boeing qui apporte la lumière en réalité à SpaceX et à Starlink d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous avez forcément lu la biographie d'Elon Musk, d'Isaacson, mais aussi il y a un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps par un Français qui s'appelle Michael Valentin, qu'il a titré La méthode Elon, et qui explique comment Musk a véritablement révolutionné cette industrie spatiale en partant de rien. Et cette capacité qu'il a à recréer, ce qui a été le cas aussi avec Tesla, à recréer des nouveaux process, à revoir complètement la chaîne de fabrication, en réalité, ça a été une véritable locomotive pour tout le secteur. Et d'une certaine manière, on va le voir ce soir. Est-ce que Boeing va se hisser au niveau de SpaceX ou pas? Est-ce que Musk va être véritablement une locomotive pour l'ensemble du secteur ou pas? Si ça marche, c'est que il aura été d'une certaine manière dans le for good, puisque c'est aussi son objectif. Il le dit.
Oui, mais ce qui est intéressant, notamment avec Musk, c'est qu'il se pose des questions autrement. C'est-à-dire, il a dit tiens, qu'est-ce qui coûte cher dans une fusée? C'est les lanceurs. Faudrait qu'ils reviennent alors. Je prends un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres.
Et on se souvient tous les ingénieurs aérospatiaux disaient c'est impossible, on pourra jamais refaire revenir des lanceurs, etc. Alors il en a explosé quelques-uns quand même.
Les histoires de.
Mais un jour, il est arrivé à reposer ses lanceurs.
L'histoire de peinture aussi, de peinture, ça coûte cher peinture, on va mettre un autre type de peinture, on verra bien. Et puis, et puis en tâtonnant, il est arrivé au bon truc. Et
plusieurs fois, il est passé à côté de la faillite.
La méthode est bien connue.
Ça ne peut jamais se faire.
La méthode first principle, c'est en fait, tu repars de la base, en fait, tu vois. Et c'est vraiment celle qu'il applique toujours, Elon Musk, il a fait la même chose sur les batteries avec Tesla. Tu parles effectivement des lanceurs. C'est si tu devais tout recommencer, par quoi je commence et qu'est-ce qui est le plus essentiel.
Il a tout recommencé, c'est pareil avec Tesla, on en parlera tout à l'heure.
Mais il a tout recommencé. Chez Google X, hein, c'était aussi ce fameux 10X, c'était le leitmotiv, c'était de se dire, ok, finalement, est-ce que ça revient pas moins cher d'essayer de repartir d'une feuille blanche plutôt que d'essayer de faire de l'incrémental de 10%. Et c'est vraiment ce que fait Elon Musk, c'est de se dire, je reprends feuille blanche, qu'est-ce qui est le plus structurant? Comment je réduis ça de façon dramatique et je fais un bond quantique? Mais bon, et c'est là où il arrive à prendre tout le monde.
Il a aussi un excellent entourage quand même.
Pardon? Oui, il a pris. Oui, mais justement, ça, on en revient au point de Frédéric tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu es un ingénieur aéronautique, tu as envie d'aller bosser chez Boeing ou tu as envie d'aller bosser chez SpaceX? Tu vois, c'est ça aussi. Tu vois, c'est pour ça que souvent, je parle avec l'entreprise, le leadership.
Moi, j'avais interviewé un ancien astronaute de la NASA qui avait été l'un des premiers directeurs techniques de SpaceX. Et sur un projet, il me racontait, Elon Musk vous dit, là-dessus, là, sur la NASA, oh, là-dessus, sur la NASA, on était 60. Ok, bah, vous allez le faire à 12. Enfin, c'est, débrouillez-vous. Et le type dit, bah, du coup, on a réfléchi à plein de choses pour le faire autrement. Mais moi, je trouve que par rapport à Boeing, tu vois, c'est là où je suis, au-delà des histoires Boeing, l'aéronautique, ce qui se passe en ce moment, c'est que ils partent pas du besoin. C'est quoi, comme tu dis, Didier, ils vont alimenter l'ISS. Bon, on a besoin, oui, il y aura peut-être une future station, il faudra alimenter aussi. Mais c'est de dire, tiens, pourquoi on pense pas différemment? Pourquoi on dit, pourquoi un vol habité? Est-ce que aujourd'hui, allez, on laisse les vols habités à SpaceX et nous, si on faisait un vol avec que des robots à l'intérieur pour aller réparer les. Enfin, voilà, des besoins comme ça, se dire, tiens, on va pas pouvoir, en plus, avec toutes les casseroles qu'on serait dans ce moment. Alors, certes, on va se redorer notre image, mais est-ce que redorer l'image aujourd'hui, c'est quelque chose d'important? On n'est plus dans les années 60 où il fallait aller sur la Lune avant les Russes et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle marché, on parle business? Jeff Bezos, il dit, bah, moi, c'est envoyer des touristes dans l'espace, je veux aussi peut-être faire une station spatiale, tu vois. J'aurais plus cru à une stratégie Boeing s'il avait dit, voilà, nous, on a, notre objectif, c'est, je sais pas quoi, réparer des satellites. Et,
ils sont plus meneurs.
Tu vois, non, mais regarde, et j'aurais mis un truc avec des robots, par exemple, je sais pas.
Oui, mais justement, encore une fois, tu parles de et ce qu'on appelle du leadership transformationnel, en fait. C'est quelle est la mission de l'entreprise? Qui est-ce qui t'emporte, en fait? Aujourd'hui, tu es capable de dire, OK, SpaceX, Elon Musk. Je dis, OK, c'est qui en face chez Boeing? C'est qui le patron de Boeing? Personne n'est capable de dire qui est le patron de Boeing.
Il change tous les 6 mois. Voilà, c'est donc, ça le problème.
Tu n'as pas quelqu'un qui va amener l'ensemble de l'entreprise, du secteur, et donc recruter les bons talents, parce qu'il n'y a pas ce leadership transformationnel qui va.
Je ne sais pas si vous avez lu, il y a pas mal d'analyses sur la déliquescence de Boeing, et elle est due en fait à un changement du conseil d'administration, où avant il était dirigé par des ingénieurs, et maintenant ce sont des financiers.
Ouais, mais
il paraît que ça a tout changé.
Je te disais,
ils ont voulu faire des économies sur la R&D, sur plein de choses. Ils ont voulu optimiser en fait le rendement des Boeing, et ça a été une catastrophe parce que les ingénieurs n'avaient plus la place qu'il leur fallait pour s'exprimer. Et on le voit, c'est terrible. Les conséquences sont dramatiques.
Et puis il y a Boeing, je pense qu'ils sont encore en train de se dire comment on va faire pour vendre à la NASA. T'as envie de leur dire, mais les gars, il faudrait peut-être aller voir les autres. Puis on sait qu'en Chine, c'est en train de bouger, l'Arabie Saoudite. Enfin,
à quelle heure est le lancement?
4h34.
Tu veux regarder?
Allez.
Mais... Non, mais on va mettre le réveil. Il nous reste quelques minutes avant.
Je rebondis sur ta blague. Je serais pas rassuré si j'étais les deux astronautes quand même.
Tu crois?
Avec toi.
Ah ouais. Non, mais franchement.
Parce que c'est un vrai problème de process, en fait.
Il y a un problème de process.
Après, je pense qu'ils ont été rassurés aussi par je veux dire, c'est un projet qui est complètement décorrélé de l'aviation.
D'accord,
de
Boeing. Mais je suis quand même pas super rassuré.
C'est sûr. C'est vrai. Non, mais tu as raison. Tesla, ça bouge, chez Tesla, et pas forcément dans le bon sens. Encore une fois, Elon Musk, fait ce qu'il veut, et c'est normal, c'est le patron. Il l'a annoncé, à licencier vraiment du personnel dans ses équipes de logiciels et de services, et notamment tout ce qui touche aux superchargeurs. Et ça, c'est quand même assez étonnant, quand même. Et c'est plusieurs centaines de postes, pour, on va dire, des services qui ne sont pas liés à la construction du véhicule. C'est vraiment des services...
superchargeurs. Ouais.
Voilà, superchargeurs. Je crois qu'il y a aussi une partie logicielle. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi il dégraisse comme ça, alors qu'on sait que l'un des succès en fait de Tesla, c'est les superchargeurs.
Moi je le soupçonne de faire un coup à nouveau, parce que il y a une semaine il a fait un coup en annonçant qu'il allait sortir une citadine. Le cours de bourse a pris je sais plus combien, près de 40%. Ouais. Là il est quand même dans une mauvaise passe, les ventes sont pas super.
Oui, elles sont pas très bonnes, ouais.
Donc est-ce qu'il nous refait pas un coup en annonçant dégraisser 10% et puis il a trouvé les superchargeurs, mais il a pas dit qu'il arrêtait complètement, il a dit qu'il
continuerait. Non, il ralentissait la croissance de développement.
Est-ce qu'il n'est pas en train de jouer avec le cours de bourse à nouveau? On va voir.
Et puis il y a, je pense qu'il peut y avoir aussi, parce que en gros c'est parti aussi quand tu cherches un peu tout ce qui est dit sur les blogs, sur les trucs, t'as la patronne justement des superchargeurs qui s'appelait Rebecca Tinucci, elle, quand il a dit bon il faut qu'on licencie, donc vois dans tes équipes qui ont pu licencier, puis elle a dit ah non, moi je me bats jusqu'au bout, on licenciera personne chez moi, c'est
ça, trop
important,
ça a été la première,
etc.
sur la liste,
et du coup il a dit bon allez, non seulement toi t'es viré, puis bon, tout est garé.
Bah, il faut avoir quand même les...
Oui. Ouais, non, mais...
L'aplomb pour tenir tête à Elon Musk, hein, parce qu'on sait que ça se termine mal, hein, en général. Hein.
Oui, mais parfois, il y a aussi cette... Enfin, on a déjà vu d'autres qui lui ont un peu résisté, qui ont tenu un peu sur certains trucs. Et puis, si elle était persuadée, elle s'est dit, ce gars-là, ben oui, parfois, il faut lui résister un peu. Et là, non, ça l'énervait trop. Et puis, je pense qu'il y a aussi le coup de tête du manager qui dit, bon, puis, allez, tu me dégages tous les gens, là, et puis on va en trouver d'autres. Mais comme on dit, il a pas arrêté, il arrête pas ça, hein. C'est juste qu'il ralentit le développement.
Non, mais c'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure le trou d'air d'Apple, c'est un peu le trou d'air de Tesla aussi, hein. Ils vendent beaucoup moins de voitures, ils se retrouvent avec des stocks phénoménaux de Tesla qui n'arrivent pas à écouler.
C'est toujours le même problème, la Chine. Hein.
C'est ce qu'il y a de pire pour un constructeur automobile, de se retrouver avec des stocks aussi de voitures.
Provisionnement par les tankers.
Oui. Non, puis tu sais, rappelle-toi, dans les usines, quand il y a eu le changement, ils avaient changé un peu le mode, ils gardaient la même usine, mais ils changeaient un peu les machines pour passer du modèle S au modèle 3. C'était pas allé assez vite. Il avait viré une centaine de personnes en disant, attends, vous êtes des incapables. Je mets tout le monde. N'oublions pas que Musk a ce côté aussi un peu.
Là, on est quand même dans un schéma qu'on a déjà connu ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas l'activité stratégique, les superchargeurs. Il essaie de garder le maximum de...
Non, mais ça pourrait le devenir demain, hein, Didier.
Mais c'est déjà lancé, tu vois. Il se dit, c'est fait.
Parce qu'aujourd'hui, les superchargeurs sont ouverts à tous les véhicules. Et demain, ça peut être, à mon avis, une manne financière importante pour Tesla.
Mais t'as pas
le fait que moi, avec ma Zoé, je puisse me brancher sur un superchargeur.
T'as pas besoin de 5000 personnes qui vont s'en occuper dans ce cas-là.
Je pense qu'en réalité... Enfin,
mais au niveau mondial, tu te rends compte un peu la logistique de ce truc-là?
Il est à espérer que ces actions montrent clairement que nous devons être absolument intransigeants en matière de réduction des effectifs et des coûts. Si certains membres de l'exécutif prennent cette question au sérieux, la plupart d'entre eux ne le font pas encore. Il y a un côté aussi
exemplaire. Je vous montre l'exemple.
Ça suffit maintenant.
Ouais. Ah. D'ailleurs, il a fait ça avec l'équipe marketing aussi. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il a recruté quelqu'un au marketing en début d'année. Le gars a recruté 40 personnes et du jour au lendemain, il les a virées. T'imagines,
c'est horrible.
Ouais. C'est horrible. Et c'est un vrai danger d'ailleurs. Moi, que je vois pour Tesla, c'est qu'à un moment, les gens vont commencer à ne plus avoir envie d'aller bosser dans les boîtes d'Elon Musk, parce que tu peux être porté au nu du jour au lendemain et puis le lendemain.
Bah, ils iront chez Boeing alors.
Ils iront chez Boeing.
Mais d'ailleurs, il y a plein de boîtes qui sont en train de. Il y a des sociétés qui s'intéressent justement, qui ont lancé des profils LinkedIn pour recruter tous ces ingénieurs des superchargeurs.
Oui, et puis il y avait aussi un site depuis les gros layoffs, enfin les. Toutes les personnes qui ont été licenciées dans les GAFA, il y a un site, je me souviens plus du truc, où tu as tous les gens qui sont listés, en fait, ceux qui ont perdu leur job et qui peuvent être récupérés dans d'autres entreprises.
Pardon, vas-y, je t'en prie.
Sur la stratégie, moi je me questionne quand même sur. Et j'ai pas les clés, donc c'est vraiment une question que je vous livre, hein, mais est-ce qu'à un moment Elon Musk n'est pas en train de se rendre compte que. Voilà, il y a eu l'heure de gloire de la voiture électrique.
Oui, oui.
Et maintenant, il y a, au niveau des ventes, justement, ça devient plus compliqué parce qu'il y a les Chinois qui arrivent, alors big time, vraiment, de façon très forte. Ouais. Les Européens qui sont aussi là parce qu'il y a toutes les voitures qui étaient au même niveau que le modèle S. Donc aujourd'hui, tu as des Porsche, tu as des Jaguar, tout ça, ça s'électrise. Donc le marché devient un peu plus tendu. Il n'est pas encore écarlate, hein, mais ça devient de plus en plus tendu. Au niveau des superchargeurs, tu as quand même notamment un Total Energy qui est en train de reconvertir de plus en plus toutes ces stations-service en stations de charge électrique. Donc c'est quand même un élément qui lui fait peut-être se dire « Bon, ben j'ai ouvert la voie, j'étais plutôt très bien placé, maintenant ça commence à se complexifier un petit peu par rapport à... »
Donc je lâche
cette partie-là. Et que j'aille là où il y a un océan bleu, c'est-à-dire les robots-taxis. Ouais. Parce qu'il n'arrête pas de dire robots-taxi. Et aujourd'hui, à part Waymo, il n'y a pas grand monde encore là-dessus. Alors, c'est peut-être ça, en fait, dans sa tête, de se dire « Bon, là, ça commence à être un petit peu rouge, je vais aller là où il y a du bleu. »